les philosophes publics.
Alors bleu, c'est quoi ? Religion.
Là, c'est on a retourné le problème
faire
en fait.
À l'extérieur de la classe, ce qu'on fait à l'intérieur de la classe, c'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres.
Bon, alors non, on a le droit, on a le droit de retourner.
C'est
hein.
Des paroles, c'est ça.
C'est sûr.
Rouge, société.
Poser des questions, mais c'est peut-être de créer du désir.
Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose de mieux.
C'est compliqué aujourd'hui de trouver la perspective commune.
Philosophie. Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis, enseignants de philosophie, attentifs à la vie commune.
Il est né d'un sentiment, sans aucun doute partagé, d'être confronté à des événements révélant une crise grave de la société.
Crise des représentations,
des institutions
et des rapports au monde. Ce collectif a décidé d'aller partout où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer,
de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et fait
pour une société plus joyeuse,
plus éclairée,
plus solidaire.
Philosophie publique.
Bonjour Morgane.
Bonjour Gabrielle.
Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle. Ça prolonge une précédente émission et puis on sait que ce vocable a beaucoup de succès. C'est peut-être déjà intéressant de savoir que cette expression intelligence artificielle, elle est née en fait en 56 précisément, de la part de deux chercheurs qui désiraient obtenir une subvention pour leur recherche en informatique, en numérique, disons. Et effectivement, ils ont inventé cette expression d'intelligence artificielle qui a eu beaucoup de succès, puisqu'ils ont obtenu le financement de leurs recherches. Mais cette expression, en fait, elle est assez dérangeante parce qu'elle suscite, elle nourrit beaucoup de fantasmes, hein, appuyée sur l'idée qu'une machine peut-être pourrait penser, qu'elle pourrait être dotée de conscience. Donc, revenir rapidement sur l'ambiguïté de ce terme intelligence artificielle parce que, il désigne, au sens vraiment strict, il désigne la simple simulation, la modélisation de comportements intelligents et pas nécessairement la réification d'une conscience, la reconstitution artificielle d'une intelligence. Ce que je veux dire, c'est que l'intelligence artificielle, c'est déjà l'ordinateur. Donc, on peut se demander pourquoi le fantasme d'une intelligence artificielle qui se rapprocherait de l'intelligence biologique, pourquoi ce fantasme persiste ? Et peut-être que tu peux nous éclairer, Morgane, là-dessus.
Effectivement, il y a une attente fantasmatique forte autour de cette possibilité de pallier, je pense, les imperfections de l'homme. Le sujet des terminales S de l'année dernière en philo, c'était le désir est-il la marque de notre imperfection ? Je crois qu'il y a quelque chose qui relève de cette question-là dans l'idée d'intelligence artificielle. Les mythes de science-fiction des humanoïdes, notamment, et des androïdes, on peut se demander s'il est en train de devenir réalité. Jusqu'où est-ce qu'on peut humaniser la machine et jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir mécaniser l'homme ? L'histoire n'est pas nouvelle. Il y a eu déjà de nombreux mythes dans l'Antiquité sur cette question-là des humanoïdes et de l'idée de la possibilité de créer un homme et de lui donner une âme. On trouve ça, par exemple, chez Pygmalion, quand il a créé Galatée. Galatée, créée anglaise et qui se retrouve à être si parfaite, si belle qu'il en tombe amoureux. Aphrodite est émue par tant d'affection et finit par lui donner la vie. On a ça aussi quand les dieux créent Pandore pour punir Prométhée. Le Minotaure aussi, qui fonctionne comme une machine. En plus, une machine qui est intéressante parce que là, elle est sécuritaire. Elle doit empêcher Dédale de quitter son île. Et puis, l'idée du golem aussi, qui est un humanoïde, puisqu'il a été créé, fait d'argile, en voulant lui donner une forme humaine. C'est un rabbin de Prague qui a voulu créer ce monstre-là pour protéger la communauté juive, et son histoire est très intéressante parce que la Bible nous dit que Golem, donc, il est fait d'argile, il a une forme humaine, donc c'est un véritable humanoïde, mais par contre il est incapable de parole et dépourvu de libre arbitre. La Bible le décrit comme cela. Donc Dieu lui donne la vie en inscrivant sur son front « Emet », qui veut dire « vérité ». Et la seule façon d'arrêter ce monstre, d'arrêter cet humanoïde, c'est de enlever le « e » d'Emet, qui donne « met », qui veut dire « mort ». Et là, à ce moment-là, on arrive à détruire l'humanoïde. Pourquoi est-ce qu'on veut le détruire ? Parce que cet humanoïde qui était censé protéger la communauté finit peut-être par trouver son indépendance et par la mettre en danger.
Oui, mais n'est-ce pas justement aujourd'hui le fantasme, l'espèce de fascination, crainte que l'intelligence artificielle, donc artefact hein, fabriqué par l'homme, finisse par le dépasser et que les hommes seraient asservi à des robots.
Oui, oui, tout à fait. Ce qui est intéressant aussi hein, dans cette idée des mythes-là, c'est que finalement, il pointe le doigt sur deux sujets. Le désir d'immortalité, hein, le fait de vouloir dépasser ce corps humain qui peut tomber malade, qui peut mourir. Et puis, l'autre désir aussi, c'est de parvenir à doter la machine de libre arbitre. Donc de la rendre autonome. La question de l'autonomie des machines est tout à fait d'actualité, notamment avec l'histoire des voitures autonomes. Il y avait encore un article dans Le Monde hier sur cette question-là. Donc on voit que c'est une question qui agite les techniques. Hein.
Et toujours sous couvert de nous aider et de nous faciliter la vie.
Oui. Alors, de nous faciliter la vie, plus que ça, hein, puisque dans cette idée de transhumanisme ou de post-humanisme, il y a l'idée de non seulement de nous faciliter la vie, mais de nous rendre tout puissants. Hein. C'est l'idée d'un humain qu'on pourrait faire devenir tout puissant, devenir Dieu. En échappant à la mort, au corps et puis à ses défaillances. C'est-à-dire qu'on essaie de lutter contre les maladies et contre le fait d'être mortel.
Ah. Oui, alors c'est vraiment troublant parce que ceux qu'on peut appeler les technoprophètes du transhumanisme, ils sont eux-mêmes imprégné en fait de récits fantastiques. Voilà, j'étais très surprise d'apprendre que Mark Zuckerberg, hein, Facebook, il déclare s'inspirer de Jarvis. Jarvis pour développer son assistant virtuel. Donc c'est le nom de la visière du casque d'Iron Man. Et Elon Musk, hein, qu'on a, voilà, dont on n'a pas besoin de préciser le.
Les fondateurs de SpaceX,
voilà.
Notamment.
Donc, il donne aux matériaux de fibre de carbone de nouvelle génération qui pourraient recouvrir les navettes, eh bien, il leur donne le nom de l'alliage fictif du bouclier indestructible de Captain America, le Vibranium. Donc, ils ont un côté enfant animé du désir de toute puissance, peut-être.
Oui, animé du désir de toute puissance. Et ils se fondent aussi sur une loi qui est révolue. Hein. C'est la loi de Moore qui avait été créée en 1965, qui pensait effectivement que les machines pouvaient évoluer de manière tout à fait exponentielle. Et puis, on sait depuis 1965 que ce n'est pas le cas, que le progrès ne se fait pas de manière exponentielle. Donc, on est quand même dans un fantasme d'une immortalité, on est dans un fantasme de toute puissance qui, du point de vue de la technique elle-même, n'a pas de raison d'être, n'existe pas.
Mais ils sont assez aveugles à ça. Peut-être parce qu'il y a des enjeux, encore une fois, économiques derrière ça.
Oui.
Ce qui m'a choqué dès le début quand j'ai entendu parler de ces courants transhumanistes par un élève d'ailleurs, tout de suite, je me suis dit, mais en fait, qui pourra bénéficier de cet allongement de la vie? Qui pourra s'offrir le raccourcissement de ces...
Ouais, c'est une vraie question, Gabrielle. Ouais.
Donc, ça semble très inégalitaire.
Oui, bien sûr. Oui, oui. D'autant plus que c'est maîtrisé et développé par des entreprises privées, hein, principalement. Ce sont les entreprises privées qui travaillent là-dessus. Donc c'est vrai que ça pose la question d'une égalité face aux découvertes qui pourraient se faire dans ce domaine-là.
Et des entreprises privées et des gens qui ne sont pas, qui relèvent pas du domaine médical ou de la recherche biologique. Donc c'est des ingénieurs, informaticiens ou astrophysiciens. Donc ça part d'une vision tout de même assez réductrice de ce qu'est l'humain.
Oui, on est vraiment dans le mythe d'une science et d'une technique qui serait capable de créer une nouvelle espèce, mais dont on ne voit pas trop. C'est pour ça que tu parlais d'Iron Man. Hein. On est vraiment dans quelque chose qui relève de la science-fiction, qui pourrait triompher hein, de la nature humaine. Donc c'est ça le post-humanisme, hein. C'est créer une nouvelle humanité qui n'aurait pas grand-chose à voir avec celle à laquelle nous appartenons visiblement. Il y a une autre question aussi hein, que soulève ce fantasme-là de l'intelligence artificielle, et je trouve que cette question est fondamentale, c'est celle du libre-arbitre. C'est-à-dire que est-ce qu'on serait capable de créer une machine capable de décider par elle-même ? Je crois que cette question-là aussi est fondamentale. En tout cas, elle est pour Ganassia, hein, Jean-Gabriel Ganassia, qui a écrit notamment un ouvrage qui s'appelle « Le mythe de la singularité ». Et qui fait cette analyse assez intéressante il distingue lui deux formes d'autonomie, hein, une autonomie de la technicité, elle serait capable d'effectuer une tâche sans qu'on ait besoin d'appuyer sur un bouton, donc ça on arrive à le faire maintenant, c'est évident. Par exemple, la voiture autonome serait reliée au panneau de signalisation, elle roulerait à 50 km/h parce que le panneau lui dit de rouler à 50 km/h. Et puis une autre forme d'autonomie qui serait là, une véritable autonomie qui serait dans la prise de décision. Est-ce qu'elle est capable de faire un choix, cette voiture autonome, pour rester sur cet exemple-là ? Est-ce qu'elle peut prendre une décision impliquant de multiples facteurs, et notamment des facteurs humains ?
Oui, alors on dit que l'erreur est humaine, donc peut-être que ces machines-là, alors on les envisage parfaites et incapables de commettre d'erreurs. Mais si toutefois il y en a, qui sera responsable ? Oui,
tout à fait, la question de la responsabilité est une vraie question, et c'est pour ça d'ailleurs que la voiture autonome, à l'heure actuelle, n'est pas encore développée. Ça pose la question de cette responsabilité autour de l'autonomie, parce qu'effectivement, quand on est autonome, on est responsable de ses choix. Et qu'est-ce qui se passe si dans cette autonomie il n'y a plus de place notamment au doute ? Hein, je crois que ce problème du doute est majeur et fondamental pour penser cette question-là. On le voit sur la juridiction, sur toutes les règles juridiques liées à cette autonomie des machines, parce que si la justice n'est plus capable de suspendre son jugement, n'est plus capable de penser la possibilité du doute, ça remet en cause tout ce qu'on pourrait penser par l'autonomie, parce que l'autonomie, c'est aussi être capable de s'arrêter si on ne sait pas.
Mais tout autre chose, concernant toujours l'autonomie, à moins que je...
Non, vas-y, je t'en prie.
Il y a quand même un problème avec l'autonomisation dans le domaine du travail.
Oui.
Parce que pour l'instant, ce qu'on voit, hein, c'est que la transition numérique, elle se solde par une destruction massive des emplois ou alors une précarisation. On pense que toutes les tâches qui peuvent être automatisées le seront. Et donc, comment l'État pourrait faire quelque chose ou est-ce que vraiment il souhaite ça, puisque ce qui compte, c'est quand même d'augmenter la croissance, pour les États, et d'être compétitif. Et donc, le secteur numérique permet de l'être. On se sent un peu mal embarqué tout de même.
Ah oui, c'est très intéressant aussi pour la manière de penser le travail, hein, cette question de l'autonomisation des tâches, parce qu'on imagine bien que ce ne sont pas toutes les tâches qu'on cherche à automatiser. Nous, professeurs, qui aimons notre travail, on n'a pas du tout envie d'être remplacé par des robots.
Non,
pourquoi ? Parce qu'on l'aime, notre travail, il est valorisé. Enfin, en tout cas, il est valorisant pour nous. Mais...
Je pense qu'il est important que les enseignants s'interrogent, hein, moi j'ai pas de réponse là-dessus, mais s'interrogent hein, sur l'introduction massive du numérique dans les écoles. Est-ce que les tablettes là qui sont introduites au collège, est-ce que donc comment faire en sorte que ça devienne un atout? Est-ce qu'il faut pas défendre, enfin on risque de paraître ringard, la lecture prolongée, réfléchie, qui permet quand même un exercice de concentration, enfin indispensable à l'autonomie de la pensée.
Ouais, moi je me pose une autre question, c'est et si le travail était libérateur? On avait besoin d'avoir accès au travail dans notre nature humaine, s'il faisait partie de nous, ce travail-là. Hein, c'est Marcuse qui définit le travail comme une pratique de l'homme en tant que son mode d'être dans le monde. Et je pense qu'il y a quelque chose de ça quand même dans le travail. C'est un véritable mode d'être dans le monde. On a besoin, quand on fait partie du monde, de travail. On voit à quel point c'est important de penser le travail pour tous, notamment dans une société.
Oui, c'est... Alors, et on commence à savoir aussi que ce ne sont pas seulement les métiers non qualifiés et facilement automatisables qui sont supprimés parce que l'intelligence artificielle là qui se redore de son appellation, elle s'introduit aussi chez les médecins, dans le travail des médecins, des travailleurs hautement qualifiés, et aussi dans le domaine de la justice, hein, une justice de plus en plus numérique, on délègue, donc est-ce que le travail va conserver tout son sens pour ces professions ?
Il y a une très belle conférence de Mireille Delmas là-dessus qui s'appelle « La justice entre le roseau et le robot ». Où justement elle parle de cette automatisation de la justice, mais en mettant le doigt sur les difficultés qu'elle peut créer. Et ça s'est vu avec l'affaire Doutreau, hein, où on a voulu judiciariser à outrance de manière un peu automatique, systématique. Et on s'est rendu compte que finalement, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec la place du doute. Il y a un moment où quand on ne sait pas, la machine n'est pas capable de dire je ne sais pas. Par contre, le juge peut le dire.
Oui, il faut que l'humain demeure. Là, il y a eu des erreurs faites donc par le croisement des données, donc vraiment numérisées. Le système, l'algorithme en déduisait que telle personne était coupable parce qu'elle habitait tel quartier et parce que ça se croisait avec une autre donnée. Il y a eu des erreurs judiciaires là-dessus.
Oui, ça me rappelle le film Les 12 hommes en colère. Je ne sais pas si tu te souviens de Sidney Lumet, le jury numéro 8, Henri Fonda. Quand il commence à mettre en doute la culpabilité du jeune homme de 18 ans qui a tué son père, commence par dire en fait, ce qui m'empêche de dire qu'il est coupable, c'est que je n'en suis pas sûre.
Oui, le doute raisonnable. Oui. C'est vrai que les machines, on les pense difficilement... comme ayant cette merveilleuse capacité à douter. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète beaucoup dans cette numérisation du travail, c'est que devient la protection sociale ? Parce que avec ce qu'on appelle maintenant l'ubérisation de la société, donc des travailleurs indépendants, mais qui ne sont pas si indépendants que ça, le statut du salariat permettait quand même, il était adossé à l'institution de protection sociale et aussi à des organisations syndicales. Comment ces travailleurs indépendants pourront défendre leurs droits ? Et on sait maintenant, il y a une surveillance sur les lieux de travail, toujours par ces senseurs et ces capteurs qui s'introduisent sur toutes les étapes de la production. Donc il y a une sorte de management sans manager. Auprès de qui récriminer ? Auprès d'un robot. Donc c'est vrai que c'est facile, un robot manager. On peut difficilement se liguer contre lui.
Je suis pas sûre que ce soit si facile que ça, justement, parce que c'est aussi une personne, enfin c'est pas une personne justement, et donc et on ne peut pas dialoguer avec lui.
Oui, voilà. Si tant est que le dialogue social veut dire quelque chose. Petite parenthèse, mais là, le dialogue robotique...
Au moins, il n'y a plus de doute sur le fait qu'il n'y a pas de dialogue social possible.
Voilà, au moins, c'est clair. Et il faut se méfier aussi parce que certains disent le remède, ce serait un revenu de base universel, qui est une bien belle idée. Mais si ça doit servir à ceux qui entendent supprimer beaucoup d'emplois, toujours pour quand même des raisons de profit, donc en numérisant de plus en plus de profession, si ça doit être la caution de cette destruction d'emplois, c'est intéressant le revenu de base universel, mais il faut voir aussi comment il est mis en œuvre et est-ce qu'il vise vraiment une redistribution des richesses.
Ouais, j'aimerais bien finir, si tu le permets, Gabriel, sur ce joli texte de Merleau-Ponty que j'aime beaucoup. Et il dit « Quand vous parlez à un homme socialement technique, il ne rêve que du temps où les machines feront tout le travail. » Où l'homme ne travaillera plus, c'est-à-dire respirera à la surface, croit-il. ne travaillera plus que quelques minutes par jour à pousser des boutons de machinerie ou à lever et baisser des commutateurs. Et qu'est-ce qu'il fera le reste du temps, lui demandons-nous. Et il nous répond, il se cultivera. Quand ce pauvre homme a oublié, ne sait pas, ne peut pas savoir, dans sa position antinaturelle, que la vraie culture de l'homme, c'est précisément son travail. Mais un travail qui soit sa vie, ce qui évidemment n'est le cas pour aucun travail technique. Après, il parle du travail du paysan. Hein,
c'est vraiment intéressant.
Et du sens du travail comme valeur humaine nécessaire.
Alors on peut penser, si, pour poursuivre, c'est vrai que c'est bien que tu aies lu cet extrait, parce que, pour revenir sur ma petite idée du revenu universel de base, c'est vrai que ça ne peut que se coupler avec une diminution massive du temps de travail, mais pour que le temps libéré soit consacré toujours à un travail, mais à un travail qui n'est pas à but lucratif, un travail
qui ait du sens.
Ouais. Voilà.
C'est ce que nous dit Merleau-Ponty. La question du sens est fondamentale, hein, effectivement. Voilà quelques pistes de réflexion qu'on voulait vous proposer aujourd'hui. Évidemment, elles sont à cheminer, à travailler encore et toujours pour continuer à penser ces questions difficiles et tellement d'actualité. Merci pour votre écoute. Merci Gabrielle.
Merci Morgane. Merci à tous.
Les philosophes publics.
Là c'est, on a retourné le problème en fait, en effet.
Là, c'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres.
Mais c'est quoi ce faut-il là? Est-ce que...
C'est circuler une parole,
c'est sûr.
Vous posez des questions, mais c'est peut-être de créer du désir.
Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose mieux.
C'est compliqué aujourd'hui de trouver la perspective commune.
Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis, enseignants de philosophie, attentifs à la vie commune.
Ce collectif a décidé d'aller partout
où le dialogue est possible. D'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer.
De discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et fait
pour une société plus joyeuse,
plus éclairée,
plus solidaire.
Philosophie publique.
Vous pouvez nous retrouver sur Facebook
et sur le site de Radio Grenouille.